Ozone, O3. Gaz, 3 mm d'épaisseur. Environ 300 dopsons.
Ozone libre. Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le petit Thomas attend ses parents à la caisse centrale.
Ozone libre.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé, Thomas ?
Ozone libre, de cristaux.
Ozone libre, à la bonne heure.
Ozone libre, le temps passe.
Bienvenue chez Dobson. Ozone libre.
Ozone libre.
Ozone, une heure de liberté.
Donc son amie lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu pleures ? Donc elle lui répond, parce que j'ai perdu mon chien, Kiki. Kiki, je l'ai perdu. Oh, bah dis, attends, on va le retrouver, Kiki. Mais comment on va faire ? Bah déjà, première étape, on va faire des affiches qu'on va mettre sur lesquelles il y aura sa photo, le numéro de téléphone, puis la récompense. Ah bah oui, mais ça ne marchera jamais. Mais non, on va mettre les affiches sur les arbres, sur les troncs d'arbres, sur les vitrines des commerçants, mais ça marchera jamais. Alors l'autre lui dit, mais pourquoi tu dis que ça marchera jamais ? Il m'a dit, parce que Kiki, il sait pas lire.
Pollution, déforestation, naturellement gazeuse, les mers, les océans, potable, impotable, feu, déboisement, météorologie, la pluie, la vie, sécheresse, le vent, piscine, pompiers, la boue, marin, marin d'eau douce, eau minérale, eau en bouteille, pirogue, multinationale, arrosage des champs, construction, utilisation de l'eau, contrôle hydraulique, soif, règles de consommation, maladie, Amazon, Amazonie, désert, nappe phréatique, douche, laver la voiture, arroser les pelouses. Vous l'aurez compris, c'est de saison. Nous allons aujourd'hui vous parler de l'eau, mais surtout de sa pénurie, de la sécheresse et du trop-plein et des problématiques qui en découlent. Dans le monde, en France et dans l'heure. Pour rappel, la Journée mondiale de l'eau a eu lieu le 22 mars 2018. Y a-t-il demain assez d'eau pour tous sur notre planète ? Théoriquement, oui. Mais il est urgent de changer radicalement la façon d'utiliser et de la partager, prévient l'Organisation des Nations Unies, ONU, dans son rapport annuel 2015 sur l'or bleu. Sinon, au rythme actuel, le monde devra faire face à un déficit hydrique global de 40% dès 2030, écrivent les experts du Programme national des Nations Unies pour l'évaluation des ressources en eau. Inextricablement lié au changement climatique, à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, à l'énergie, à la santé et même à l'égalité entre les sexes, l'eau est peut-être le thème qui illustre le mieux les trois piliers du développement durable, qu'il s'agisse de la lutte contre la pauvreté, du développement économique ou de la préservation des écosystèmes. Il s'agit de défis essentiels. Le rapport souligne ainsi à quel point la pénurie et la mauvaise gestion de cette précieuse ressource cristallisent les tensions et les conflits autour du monde. Pour répondre à nos questions sur ce sujet, nous recevons Mme Fillet-Jacqueline, présidente de l'association Œuvreux Nature Environnement.
Au sommaire aujourd'hui, des tests et des points, des mots régis en eau, troubles, une interview humide et hydrostimulante, une petite cuisine d'ozone au bain, Marie au Josuane, ou quelqu'un d'autre, des musiques qui ne font pas pleuvoir. Un avaro a soufflé d'aventure, mais pas que d'eau. Une minute de parole, des certitudes. Pour vous servir aujourd'hui, Stéphane, Rémi, Cindy, Chantal, Didier, Mimi, Caroline, Vinter, Vivien et Timothée.
Ils sont bien mignons ces deux-là avec leurs grosses moustaches à la magnum. Ils me disent « papier ». Non, certes, j'ai papier, mais je les rassure, je sais nager, tout va bien. Mais j'avais mal compris, bien sûr. Ils me demandent mes papiers. J'avais pas vu leur slip de bain gendarmerie nationale. Bah oui, bon, j'explique. Un peu, il y a eu un déluge, le deuxième d'après certains. Les terres immergées sont devenues très rares et maintenant on vit dans l'eau. Alors, les uniformes des gendarmes ont été adaptés. Évidemment, l'eau et le papier s'entendent pas très bien. Alors, on a maintenant du papy turc. C'est un papier sénégalais. Alors, je ne sais pas avec quoi c'est fait, mais ça résiste à l'eau. Alors, pourquoi papy turc alors que c'est sénégalais? Moi, j'en sais strictement rien, mais je ne sais pas non plus pourquoi on disait papy russe alors que c'est égyptien. En fait, il n'y a que le papier d'Arménie qui doit vraiment venir d'Arménie. Mais passons à la suite. D'ailleurs, puisqu'on parle de papier avec mes deux moustaches, ça me rappelle cette légende de la carte qui montre où se trouvent les dernières terres immergées. Paraît que cette carte, qui vaut tous les trésors du monde, a vraiment existé, sauf qu'elle était en papier, à l'ancienne. Enfin, vous savez, la pâte à papier faite avec des arbres, et que du coup, la carte que tout le monde rêve de trouver aurait été détruite par l'eau. Oui, c'est idiot. Bon, je vous parlerai pas du papier toilette, hein, c'est devenu quelque chose de très très compliqué. Bon, au moins, avec le réchauffement climatique, l'eau est bien chaude. Ce qui m'embête le plus, c'est les animaux domestiques. Parce que franchement, les carpes et les saumons, c'est pas aussi affectueux que les chiens et les chats.
Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me, my lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'll go sailing. It's far beyond the star, it's near beyond the moon. I'll know beyond a doubt, my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just like before. Just as before, happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. No more sailing, so long sailing, sailing. goodbye, farewell, my friend. No more sailing. So long, sailing. No more sailing. No more farewell. I'll feed a saint to you, to you, to you. Sailing, no more. Oh, no more sailing. No more, no more. No more sailing. No more. Time, no more sailing.
Eh bien, nous venons d'écouter Frank Sinatra qui interprétait Somewhere Beyond the Sea. Vous l'avez compris, notre sujet repose sur l'eau. Pour répondre à nos questions sur ce sujet, nous recevons aujourd'hui Madame Fillet-Jacqueline, présidente de l'association Evronature Environnement. Madame Fillet, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire, nous présenter votre association et quels sont les objectifs ?
Evronature Environnement est une déclinaison locale de France Nature Environnement. Et localement, nous regroupons 6 associations sur des thématiques bien diverses comme les problématiques de l'environnement. Donc nous avons une association sur la gestion des déchets, sur l'agriculture biologique, la distribution de produits biologiques dans le cadre de la MAP d'Évreux. Également, nous avons une association sur l'énergie, une association sur c'est en train de m'échapper, mais enfin c'était sans doute la 6e. Et donc nous couvrons un certain nombre de thématiques, la plupart des thématiques, dont celle de l'eau. Et voilà, sur Evronature Environnement, je ne dirai pas plus.
Bonjour Madame Fier.
Bonjour.
Et pouvez-vous nous décrire les grands problèmes reliés à l'eau dans le monde ?
Le grand problème relié dans l'eau dans le monde, relié à l'eau dans le monde, eh bien, il ne devrait pas exister. Parce que sur la planète, nous avons quand même une réserve d'eau. Nul n'ignore que, à notre connaissance, la Terre est la seule planète qui ait le privilège, en quelque sorte, d'avoir de l'eau. Et si nous mettions l'eau dans un volume, dans un cube, il nous faudrait construire un cube de 1000 km de côté pour pouvoir mettre toute l'eau de la Terre. Cette eau, donc, en fait, on l'estime à 1400 fois, enfin, multiplié par 10 puissance 18. Ça veut dire à 1400 litres, vous ajoutez 6 fois 3 zéros. Et vous avez l'estimation du nombre de litres sur la planète Terre. Alors, j'ai parlé de litres, mais l'eau existe sur la planète également sous forme solide et également sous forme gazeuse. Mais la forme gazeuse est très, très peu, infime par rapport aux deux autres. Et l'eau liquide est de loin la plus importante. Et notamment dans sa présentation salée, c'est-à-dire l'eau des océans. Qui représente 97% à peu près de ce chiffre pharaonique que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui fait que nous avons des problèmes d'eau ? Eh bien, c'est que, premièrement, l'eau, quant à elle, elle restera toujours de la même quantité, du même volume. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et qui fait que nous n'avons dans certains pays, pas d'eau, mais tout simplement parce que naturellement, la distribution de l'eau, quand je parle de distribution, je devrais parler de répartition géographique de l'eau, est inégale. Donc il y a des régions du monde qui sont très 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 à l'aise avec leurs ressources en eau, à tel point qu'elles les ont gâchées. J'y reviendrai probablement. Mais donc c'est le premier élément de réponse à la question, c'est l'inégalité de la répartition géographique de l'eau et de l'accès à l'eau. La deuxième, c'est qu'effectivement, des activités humaines, non, de nombreuses activités humaines, mais certaines plus que d'autres, ont modifié la qualité de l'eau ou l'accès à l'eau. D'où les problèmes que vous évoquiez.
Justement, en parlant des zones du monde les plus touchées, quelles sont les zones à travers la Terre qui sont les plus touchées par le problème de l'eau ?
Par les problèmes de l'eau, les pays qui effectivement n'ont ni côte au bord d'un océan ou d'une mer, ni non plus de rivières ou bien des rivières qui sont des cours d'eau qui sont très peu souvent remplis. On en connaît bien sûr en Afrique, on en connaît également au nord de l'Afrique et plus bas encore, mais un certain nombre de pays qui souffrent aussi de l'inverse, à savoir de l'inondation. Hein, de l'inondation permanente qui est une grande souffrance également, et sachant que c'est une eau qui est très peu utilisée en plus de cela.
À votre avis, quelles sont les perspectives d'amélioration ?
Alors, mon avis est fondamentalement et volontairement optimiste, parce que les solutions, nous les connaissons. Elles ne sont pas faciles à mettre en œuvre, mais surtout parce que la détérioration s'est faite finalement lentement, si bien que beaucoup d'entre nous, je parle des plus âgés bien sûr, dont je fais partie, beaucoup d'entre nous ne l'avons pas vu venir et nous sommes réveillés un peu tard. Mais quand même, il y a des possibilités. D'ores et déjà, des mesures dans les pays qui ont les plus fortes responsabilités, en quelque sorte, dans la situation actuelle. Dans ces pays-là, des mesures sont mises en œuvre. Les mesures sont bonnes, mais il y a deux choses qui manquent. C'est premièrement le volontarisme de mesures plus exigeante que celle que l'on a, je parle là pour la France, et d'autre part, la surveillance du bon respect des mesures qui sont pourtant obligatoires.
Y aurait-il une solution pour transformer l'eau de mer en eau potable ?
On sait faire, c'est un espoir, mais un espoir qui est quand même lourd de conséquences, et c'est pour ça que beaucoup de pays hésitent à se lancer là-dedans, c'est que c'est une façon de polluer. Tout simplement parce que extraire le sel de l'eau salée, on sait le faire, mais que fait-on du sel ? S'il s'agit de l'exporter sur une autre planète, c'est pas tout à fait quand même ce que nous allons défendre comme position.
L'humanité sera-t-elle confrontée à un problème majeur d'eau dans les années à venir ?
Hélas, premièrement, l'humanité, tout au moins une part non négligeable de l'humanité, est déjà concernée par les problèmes de l'eau, soit par l'absence de l'eau, soit par la qualité, une qualité d'eau qui pose de grosses problématiques. Et dans d'autres pays, on voit le prix de l'eau monter de telle façon que on laisse une partie de la population ne pas pouvoir accéder facilement à l'eau. Mais ça ne peut, si on continue comme c'est parti, ça ne peut que se dégrader encore plus, à savoir que certains estiment que dès 2025, il y aurait 8, sur 8 milliards de terriens, il y en aurait 2 milliards qui vivraient dans des pays frappés d'une pénurie totale d'eau, et quasiment 5 milliards qui n'auraient pas accès à plus que le strict minimum vital d'eau. Donc le problème est grave.
En parlant justement des problématiques, en France, à quelles problématiques sommes-nous confrontés et dans quelle région particulièrement pour la France ?
À quelle problématique sommes-nous confrontés ? Là aussi, elles sont en France. Oui. Donc, pour la France, effectivement, la problématique essentielle est la pollution de nos cours d'eau, la pollution, y compris de certaines eaux souterraines. Et d'autre part, la pollution de l'eau qui est prélevée dans les nappes pour devenir une eau potable. Cette pollution, elle est principalement, là je me réfère sur ce qu'est le travail qu'est en train de faire l'Union fédérale des consommateurs, UFC Que Choisir, qui a lancé une grande enquête sur toute la France à propos des captages d'eau et des problématiques des captages d'eau. Les captages d'eau qui nous délivrent une eau fortement chargée, trop fortement par rapport au seuil toléré, de nitrates et de ce que l'on appelle les pesticides. D'autres préfèrent les appeler les phytosanitaires, mais moi je choisis le mot pesticide parce qu'il dit bien quelle est la fonction de ce produit.
Alors, toujours en France, quelles en sont les causes ?
Les causes, elles sont multiples. Parce que quand j'ai dit pesticides, j'aurais dû ajouter aussi des molécules fort proches de celles des pesticides. C'est les molécules médicamenteuses. Donc voilà, chacun de nous, quand nous nous soignons, et j'invite tout le monde à se soigner bien sûr, nous rejetons dans l'eau des molécules médicamenteuses qui sont les mêmes que celles des pesticides, grosso modo. Donc, toutes les activités humaines provoquent des pollutions, absolument toutes, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient professionnelles. Et il y a des activités industrielles qui polluent beaucoup, mais il y a une législation qui vraiment permet de résoudre, ou plus exactement, plus précisément, de faire reculer cette problématique liée à l'activité industrielle. Donc on pense bien sûr à l'activité agricole. Et là, moi je tiens à dire que si on pense que les agriculteurs sont responsables, eh bien il ne faut pas oublier que nous consommateurs, nous le sommes tout autant, parce que nous avons apprécié les fraises à Noël, etc. Donc il ne s'agit pas de condamner des personnes, mais de dire que nous devons cesser d'appliquer ce modèle agricole qui a été presque imposé, en tous les cas, les agriculteurs, au fil des décennies, ont été, après-guerre, très incités à utiliser ces produits qui permettaient d'augmenter les récoltes. Et maintenant, le fait de revenir à une agriculture sans ces apports chimiques est un gros effort. Et il faut absolument que nous le fassions, nous consommateurs, d'une part, puisque c'est quand même nous qui créons la demande, et donc qui agissons sur l'offre. Et du même coup, si nous faisons clairement savoir que nous voulons privilégier la santé des agriculteurs, de leurs familles et de l'ensemble de la population, c'est bien sûr vers une agriculture beaucoup moins nocive. Et bien sûr, l'exemple le plus souvent nommé, c'est l'agriculture biologique. Mais d'autres agricultures, peut-être, sont possibles. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en ce moment et qui sont intéressantes.
Une autre question, c'est comment est utilisée l'eau en France ? Y a-t-il du gâchis ?
Hélas, il y a du gâchis. Le premier, il est dans la distribution de l'eau en France. En France, en moyenne, chaque producteur, en quelque sorte, d'eau, qu'il soit un producteur en régie ou qu'il soit privé, se bat avec son circuit de distribution de l'eau qui, à lui tout seul, déjà, perd 30% en moyenne 30% de l'eau qui a été potabilisée repart directement. Alors certes, on peut dire dans la nappe phréatique, mais enfin, potabiliser de l'eau pour qu'elle retourne dans ce qui devrait déjà être de l'eau potable, ça n'est pas franchement un bon plan. Mais il y a ensuite des pratiques individuelles, familiales, des pratiques collectives, professionnelles, des pratiques donc qui font que l'on gâche beaucoup d'eau. Robinet qui reste ouvert, mais aussi bien sûr arrosage en plein midi en été, arrosage des champs, mais pareil, arrosage des jardins privés. Donc c'est tous ensemble que nous pouvons réussir. C'est pas compter sur l'autre, c'est tous se réinterroger sur nos pratiques et les économies d'eau que nous pouvons faire. Et là aussi, il y a beaucoup de réponses positives. Nous avons du choix, mais c'est surtout le faire maintenant.
Quels sont les bons gestes doit-on avoir pour économiser l'eau en France?
Alors, je ne sais pas si on pense aux bons gestes à titre individuel ou bien ceux que l'on apprend à l'école. Ils sont intéressants. Hein. Effectivement, le fait de ne pas laisser un robinet ouvert, c'est important. De ne pas laisser un robinet qui laisserait passer une goutte d'eau toutes les quelques secondes, c'est important tout ça. Mais il y a évidemment des pratiques qui jouent sur des beaucoup plus grands volumes. Et j'avais répondu avant, ne sachant pas que vous me poseriez cette question-là, c'est par exemple les arrosages qui doivent être beaucoup plus précis et aussi respectueux des horaires, à savoir que en plein midi, c'est vraiment le pire d'arroser un champ. On a tous vu ces gros tracteurs avec leurs grandes ailes, d'où sort de l'eau et de l'eau qui ne va même pas profiter réellement à la plante. Quoi. C'est vraiment ça qui est navrant. Donc, on connaît bien d'autres façons alternatives d'arroser. Alors, il y a aussi des activités industrielles qui consomment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Et là aussi, est-ce qu'on a cherché à produire autrement? Tous nous devons nous y mettre. Il y a besoin de vraiment beaucoup, beaucoup de recherche et de beaucoup d'imagination, de créativité, d'inventivité et de volonté surtout.
Maintenant, nous allons parler un petit peu de l'Eure et d'Évreux en premier. Quoi. Pourquoi nous dit-on que les nappes phréatiques sont basses presque tous les étés?
Oui, alors effectivement, on est un peu déçus parce qu'on se dit « Ah là là, il a plu beaucoup ». Au moins, on est sûr que les nappes phréatiques sont bien rechargées et que nenni. On est contraint de remarquer qu'on n'a toujours pas récupéré les niveaux d'avant. Alors d'avant quoi? Et bien d'avant, nos modes de vie qui sont devenus beaucoup plus gourmands en eau. Je sais bien que vous m'avez posé la question par rapport à Évreux, mais quand même, juste, je ne peux pas résister de comparer la consommation d'un Américain moyen par jour, 600 litres d'eau, d'un Européen moyen par jour, 300 litres d'eau, et d'un Éthiopien moyen par jour, 20 litres d'eau. Bon, donc, il y a, même pour les Ébroïciens, beaucoup d'efforts à faire, pour moins tirer dans les nappes d'eau. C'est ça le problème. On tire des nappes beaucoup plus d'eau qu'il n'en revient. Et on a cassé ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Et qui fait que l'eau, car au début j'ai dit le volume total d'eau ne varie pas. Il ne varie pas, mais par contre, on en profite d'une façon beaucoup trop rapide par rapport au temps qu'il lui faut pour se reconstituer au niveau des nappes. Mais l'eau n'est pas perdue pour autant.
Toujours à Évreux, à qui paye-t-on l'eau et pourquoi?
Alors, l'eau, on la paye pour le moment encore à une régie et tout Évreux Nature Environnement est mobilisé pour que ce soit bien en régie que reste l'eau, c'est-à-dire une gestion publique de l'eau. Il y a des tentations, y compris à Évreux, et certaines autres communes ont déjà franchi le pas, de remettre cela entre les mains de boîtes privées. Des noms, je ne vais pas en citer. Mais donc nous payons cette eau, c'est-à-dire que votre question est excellente parce que c'est un contresens que d'avoir à payer l'eau. Quand est-ce qu'on va aussi nous faire payer l'air ? Parce que ce que je vais dire des causes qui font qu'on paye l'eau, eh bien, elles nous attendent d'ici peu pour l'air. Donc, qu'est-ce que nous payons ? Eh bien, nous payons les forages, les recherches d'abord. Les recherches d'un lieu où nous allons pouvoir pomper l'eau. Ensuite, nous payons le forage. Le forage qui, parfois, n'est pas réussi dès le premier coup. Il faut en faire un deuxième. Bon. Nous payons ensuite le traitement de potabilisation de l'eau. Nos ancêtres, mais nos grands-parents ou arrière-grands-parents, pour tous ceux qui n'ont pas encore passé le cap de la trentaine ou la quarantaine, seraient ébahis d'entendre ce mot « potabilisation de l'eau ». Alors, la potabilisation de l'eau, il y a des lieux du monde où elle est absolument nécessaire, où il est absolument nécessaire de faire bouillir son eau avant, mais ils ne payent pas l'eau au prix où nous la payons. Et pour beaucoup, ils ne payent pas l'eau. Mais par contre, ils font des kilomètres pour aller la chercher, etc. Rien n'est gratuit en ce bas monde. Donc, nous payons la potabilisation, nous payons la distribution, c'est-à-dire le pompage qui permet de pulser l'eau jusque dans les châteaux d'eau, d'où ensuite elle va redescendre en profitant de la pesanteur, elle va redescendre sans intervention mécanique vers les robinets, même vers les robinets des plus hautes tours d'Évreux, puisque les châteaux d'eau, précisément, sont mis en hauteur et leur hauteur est calculée pour que l'eau ait encore suffisamment de pression pour monter aux derniers étages. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
Oui. Alors, à Évreux, quelle est la qualité de l'eau du robinet ?
Alors, la qualité de l'eau au robinet, bien évidemment, elle est conforme à la loi. Bien évidemment, sinon elle ne pourrait pas s'appeler potable. Mais conforme à la loi, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de molécules qu'on ne recherche pas, peut-être tout simplement parce qu'on ne sait pas les rechercher, ou bien parce qu'on ne sait pas les traiter si on les trouve. Ce sont les molécules médicamenteuses. On ne les recherche pas. Donc, ne pas les rechercher ne veut pas dire qu'il n'y en a pas.
Oui, pardon, excusez-moi, allez-y, madame.
Oui, je voulais juste dire qu'il y a une particularité à l'eau d'Évreux, mais pas, c'est pas juste Évreux qui est concerné, c'est le calcaire. Il y a beaucoup de calcaire dans l'eau d'Évreux. Le calcaire, il est naturellement présent. Alors, c'est désagréable par rapport au fonctionnement d'un certain nombre de machines à laver, le linge, la vaisselle, etc., cafetières qui s'entartrent, bon. Mais mis à part ça, le calcaire n'est absolument pas nuisible pour le consommateur.
Nous allons terminer par cette question. Que pensez-vous de la privatisation de la desserte en eau potable ?
Là, vous parlez en général.
Oui, tout à fait. Oui.
Donc, sur le principe même, Évreux Nature Environnement n'est pas du tout favorable à ce genre de bascule de ce qui est un bien commun vers une gestion privée. Donc, ce bien commun, déjà, nous en avons perdu toute une part du contrôle, puisqu'encore une fois, il devrait être gratuit. S'il n'est plus gratuit, c'est du fait d'un certain nombre d'activités humaines, et c'est tout le monde qui doit payer pour la rendre potable, cette eau, alors que tout le monde ne bénéficie pas forcément des avantages que ceux qui polluent et qui devraient être les payeurs. Ça, c'est une loi, elle existe, elle n'est pas appliquée. Et donc, nous avons aussi du travail à faire en tant que citoyens pour vérifier que les lois sont appliquées, et parfois ça nous mène un peu loin, et c'est le cas de notre association qui précisément est en justice pour, par rapport au fait qu'un projet routier à Évreux a été ouvert alors qu'il allait forcément impliquer la suppression, la fermeture de deux captages d'eau excellents. Excellent, excellent quantitativement, ils fournissaient la quantité voulue, excellent qualitativement, c'est surtout ça que nous allons retenir, parce que, tout simplement, ils couraient sous la forêt pendant des kilomètres et des kilomètres. Et l'eau était quasi potable, telle qu'elle est sortie de ces deux captages. Ce projet routier a obligé à créer de nouveaux captages, ils sont au nombre de 11, et ces captages puisent une eau qui est contaminée, je ne peux pas dire autrement, par les produits qui sont utilisés pour la culture sur le plateau. Donc le plateau du Neubourg, pour ne pas le nommer. Donc voilà, c'est typiquement un projet qui a beaucoup trop traîné pour être réalisé, et maintenant il est en cours de réalisation, alors qu'il est c'est une erreur que j'espère ne pas être fatale, parce qu'en plus de ça, il y a une partie du tracé qui n'est pas encore dans le chantier, n'est pas encore ouvert, et pour lequel nous nous battons, parce que vraiment nous craignons beaucoup pour la nappe phréatique qui est en dessous.
Eh bien, nous allons conclure là notre interview. Enrichissante, et on vous recevra peut-être une autre fois si l'occasion se présente. Je rappelle que nous recevions aujourd'hui Madame Fillet Jacqueline, présidente de l'association Évreux Nature Environnement. Si vous avez un site internet ou quelque chose où on peut vous joindre.
Tout à fait, Évreux Nature Environnement, ben vous écrivez Évreux Nature Environnement et vous cliquez. Vous aurez notre site sur lequel vous en pourrez en savoir plus sur tous les points que j'ai abordés ici.
Merci beaucoup, Madame Fillet.
C'est moi qui vous remercie.
De la piscine, dans le petit puits marine, tout déchiré au cou, mais j'ai pas voulu recourir, mais tu m'avais donné, je me sens tellement abandonnée. Y'a pas qu'au fond de la piscine, que mes yeux semblent marines, tu les avais repérés, sans qu'il y ait un regard, et t'avais répliqué, maintenant je paye l'effet de teint. Avant de toucher le fond, je descends à reculons, sans trop savoir ce qui se passait dans le fond. C'est plein de chlore au fond de la piscine, j'ai bu la tasse gin gin. Comme c'est pour toi, je m'en fous, je suis vraiment prête à tout avaler. Que m'importe si l'on me trouve à moitié morte. Noyée au fond de la piscine, personne ne te voyait. Sous mon petit pull marine, mon lacet, je t'embrassais jusqu'au point de non-retour, plutôt limite de notre amour.
Je vais vous lire le poème de Grégory sur le noir. Il fait noir, il fait obscur, on touche le dur, à quoi bon l'absolu? Quand on a tout lu, l'obscurité de la nuit nous lance un défi, celui de réfléchir la lumière. peu importe l'air, du moment que cela nous éclaire.
Alors aujourd'hui, nous allons préparer donc un phare breton au pruneau. Alors les ingrédients nécessaires pour faire ce gâteau, il faut 200 g de farine, 150 g de sucre, 4 œufs, 2 paquets donc de sucre vanillé, 75 centilitres de lait et 20 pruneaux. Le temps total donc c'est 45 minutes. Alors ça se décompose en 15 minutes donc de préparation et 30 minutes de cuisson. Alors, nous allons commencer donc pour préparer la pâte en mélangeant la farine, le lait, le sucre, les œufs et le sucre vanillé. Donc le lait, la farine, pardon. Voilà, la farine, c'est 200 grammes. Alors, donc, on mélange à la farine le lait. Donc, pour rappeler le lait, donc, il faut 75 centilitres de lait. C'est bon, donc on verse le lait donc dans la farine. Et encore
un quart. C'est difficile, il faut être bon en maths hein, pour faire la cuisine.
Alors bien mélanger donc le lait donc et la farine. Ensuite, il faut donc rajouter le sucre. Alors le sucre, c'est 2 paquets de sucre vanillé. Et c'est 150 grammes de sucre, pardon, une bêtise.
Ouais, on mélange tout. Alors là, il nous restera à mélanger donc les œufs. Alors c'est 4 œufs.
Alors apparemment, hein, c'est les œufs complets, hein, donc le jaune et le blanc. Alors après, donc, il nous restera donc à mélanger. Le sucre vanillé.
Deux paquets.
Ça. Alors je répète, donc ce qu'il nous fallait comme ingrédients, 200 g de farine, 150 g de sucre, 4 œufs, le paquet de sucre vanillé, 75 centilitres de lait et 20 pruneaux. Le temps total de la préparation, c'est 45 minutes, ça se décompose en 15 minutes de préparation et 30 minutes de cuisson. Donc, ne pas oublier donc, de préchauffer le four donc, à 200 degrés. Et il faut faire fondre un morceau de beurre dans un plat, si possible, en terre, puis bien répartie à la matière grasse dans le fond et sur les côtés. Ouais, il faut les rouler.
Elle est
là.
Belle notre pâte.
Ouais.
Tu en penses quoi, Caroline?
Elle est très belle.
Alors, faut rouler donc les rouleaux dans la farine pour éviter qu'ils ne restent au fond.
Donc, comment on fait pour les rouler dans la farine? On met dans un plat.
Dans un plat, on met la farine et puis on roule.
On roule.
On roule.
On roule les prénoms.
On roule les prénoms. Alors on roule donc les pruneaux dans la farine. Alors on répète, hein, c'est la farine, c'est pour empêcher que les pruneaux restent au fond du gâteau. Ça va être délicieux. Ça va être très bon. Ça fait un bon gâteau, hein. Non, important, oui, oui. Elle aurait été remuée, hein, cette pâte. Hein.
Ah oui, hein.
Ouais.
C'est pas mal,
hein. Ouais. Elle est bien homogène. C'est marrant parce que les pruneaux vont pas au fond. Hein. Ouais, 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 c'est bien, ouais. Je savais pas que le fait de mettre de la farine, ça suffisait à... Alors surtout, il faut prendre un plat de... qui soit assez grand. Alors, maintenant, donc, il faut le faire cuire une demi-heure au four.
Une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Une fourmi noire assise sur une pierre noire regarde dans le noir. Une fourmi noire recroquevillée dans le noir s'enlace sur un mouchoir noir. Une fourmi noire sur une pierre noire s'endort dans le noir. Une fourmi noire sur une pierre noire se réveille dans le noir.
Je chante sous la pluie, oui je chante sous la pluie, quelle charmante impression, j'adore cette sensation. Les gros nuages noirs ne peuvent m'émouvoir, car j'ai dans le cœur du soleil, du bonheur. Par ces temps orageux, les gens rentrent chez eux, toujours et encore je reste seul dehors. Pensant à mamie, moi je chante sous la pluie, oui je chante sans bouger sous la pluie. Si je suis toujours joyeux et content, si l'hiver pour moi ressemble au printemps, si chaque matin remet le bonheur, sentir mon cœur près de votre cœur. Si tous les jours de ma vie sont très doux, c'est que toute ma vie est pleine de vous. Je chante sous la pluie, oui je chante sous la pluie, quelle charmante impression, j'adore cette sensation. Les gros nuages noirs ne peuvent m'émouvoir, car j'ai dans le cœur du soleil, du bonheur. Par ces temps orageux, les gens rentrent chez eux, toujours et encore je reste seul dehors. Pensant à ma mie,
Moi je chante sous la pluie, oui je chante sans bouger sous la pluie.
Les aventures du narwhalo, c'est dans Ozone Libre.
Il fut un moule pressé, condensé, liquéfié, furieux, enragé, réduit à un état de flaque, faisant flop. Notre grand gourou décide de consommer sur place, sans supplément, avec une paille, le jus de moule.
Quel foire j'avais! Pas dégueu ce jus. Il y a un goût de reviens-y.
Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste.
Non. Vengeance due. Terrible due. À l'attaque due. À mort due. Qui m'aime due, me suive due.
Un peu de bon sens, mon ami. Tiens-toi à distance. Il semble très en colère.
Allez-y. Passez devant, donc, à l'attaque. Je vais me soulager et je vous rejoins.
Arrêtez-les. Enfermez-les pour le prochain rituel. Nourrissez-les bien, qu'ils soient à point et gracieux.
Cool, les gars. Alors, apportez-nous un Kamak King menu 4 XL potatoes, mayo, grande boisson et sur place.
De toute façon, je crois que le drive est fermé.
Toute la fine équipe de trompettes, le Navalo, Yodende et Dodu se retrouvent capturés par les adeptes du gourou, enfermés dans un donjon carré. L'or est serré du pain humide et de l'eau sèche. Pendant ce temps-là, le gourou est à pleine digestion.
Mais que m'arrive-t-il? Ça bouge dans mon corps, ça pique ce putain de jus. Mais qu'est-ce que c'est que cette énergie? Je me sens fort mou, dans mon corps mou. Mais pourquoi mou? Mais pourquoi mou? Je lis des mous partout mou.
Pendant ce temps, les cerveaux fument, les idées fusent pour trouver des plans d'attaque et de fuite.
Taisez-vous, un peu de silence. On ne s'entend plus dormir.
Mon papounette, tu ne changeras jamais.
C'est à moi due, cette vengeance due. C'était mon ami, doux. Mon frère d'âme due. Je veux le trangler doux, le fracasser dur.
Pendant que Dodu fomente son plan B d'évasion ou sa crève Suzette de fuite, le gourou est pris de convulsions spasmiques, subliminables et supraliminales. Jean texte tonique, ta mère et en plus, il bave du caramel en fusion. Ça fait des bulles et ça coule au poil. Moule, mi-figue, mi-raisin, semble reprendre le contrôle de l'intérieur du dédain interne de son corps. Le gourou essaie de se battre, mais en vain, ou tout autre alcool à consommer sans modération. Il se transforme en une nouvelle identité. Gourou moule. Environ 25% de gourou et 80% de moule, lui seul le sait. Ou peut-être que d'autres le savent, mais ne le disent pas, même sous la torture. Le gourou moule va donc aller saluer ses potes dans les gâtistes. À peine a-t-il ouvert la porte que...
Je vais te tuer du doux. Je vais te retuer du gourou doux. de mes yeux, de mes deux dieux.
Pas in terra, omnibus bonae, volumatis, paix sur terre aux hommes de bonne volonté. Ça claque, ça fait très classe.
Iha, que le sang coule, cassons à brosse nos micro-sillons.
Pour ma part, j'entends que de connaître le vainqueur de ce duel pathétique. Pour m'engager effectivement, car le chef reste le chef, et c'est moi. Les moutons seront bien gardés.
Magnifique, le coup de la corde à linge. Vas-y, Doudur, fous-lui sur la gueule. Étrangle-la à la Texane sauce tabasco, au lasso et que ça saute.
Regarde tes mains, le caramiel coule à flot. Regarde le coup du gourou, il y a un truc dégueu qui pousse sa sointe.
Attendez, doux, je goûte du miam. C'est bien le fait du caramiel doux. Ça me rappelle maman du. Mais miracle doux, aux joies du bonheur doux, notre moule mou est vivant du.
Ça me rappelle quand j'ai subi ma dindification du latin, dindificatus et du grec pouletikos.
Moulmou, je suis bien mou, moulmou, mais en public mou. Continue à m'appeler grand gourou, car chit, mou, pour les autres mou. Faites semblant mou, de me croire mou. Craignez-moi mou, vraiment mou. C'est bien plus satisfaisant mou, pour mon ego mou.
Moulmou doux. Qui parle de go du. Il y a un gui doux sous roche du. Tac, 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 doux, tac, tac, du.
Il est temps de conclure cet épisode joyeux, mais néanmoins inquiétant sur la fin. Moulmoul est vivant, mais doit-on s'en réjouir? Le Navalo est un peu trop calme qu'à l'accoutumée habituelle. Il y aura-t-il une deuxième aiguille sous la roche? Terminus ad quem, et surtout terminus ad quem. Comme dit Suprosuma du caramel, tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin tu me les brises. Prochain épisode, si vous avez le courage, le 26 avril 2018.
Les aventures du Narvalo, c'est dans Ozone Libre.
Alors, pour la Minute du Pôle, Sandrine ne pouvait pas être là, mais nous a dégoté un texte qui s'intitule « Le porteur d'eau ». Un porteur d'eau en Inde avait deux gros pots, chacun suspendu à l'extrémité d'une perche et qu'il portait sur son épaule. Tous les jours, le porteur faisait le même chemin pour aller chercher de l'eau. Un des pots était craqué et laissait fuir la moitié de son contenu, alors que l'autre était parfait et ne perdait pas une goutte tout au long du sentier menant à la maison. Pendant 2 ans, le livreur fit le même chemin tous les jours pour apporter de l'eau dans la maison de son maître. Naturellement, le bon pot était fier de l'eau qu'il apportait jusqu'à la maison sans perdre une goutte. Mais le pot craqué était honteux et misérable de ne pouvoir accomplir que la moitié de ce pour quoi il avait été fabriqué. Après 2 années de ce qu'il percevait comme une déception, il parla au porteur d'eau sur le chemin du retour. « J'ai honte de moi et je désire m'excuser. »« Pourquoi ?» demanda le porteur d'eau. « De quoi as-tu honte ?»« Je n'ai pu durant les 2 dernières années livrer que la moitié de l'eau à cause de ma fissure sur le côté, en perdant l'eau tout au long du sentier. » À cause de mon défaut, vous avez à faire tout ce travail et je ne vous donne pas la pleine valeur pour vos efforts.
Mais non, puisque nous retournons à la maison de mon maître, je veux te montrer les belles fleurs le long du sentier. En effet, pendant qu'il montait la côte, le vieux pot fêlé remarqua que le soleil réchauffait les très belles fleurs sauvages sur le bord du sentier et cela le consola. Mais, à la fin du sentier, il se sentait encore mal parce qu'il avait perdu la moitié de son eau et s'excusa à nouveau auprès du porteur d'eau pour sa fêlure. Le porteur dit au pot « As-tu remarqué qu'il y a des fleurs seulement sur ton côté et non pas sur le côté de l'autre pot ? C'est parce que j'ai toujours connu ton défaut et j'en ai pris avantage. J'ai semé des graines de fleurs sur le sentier, sur le côté du sentier et chaque jour, au retour de la source, tu les arroses. » Depuis 2 ans, j'ai pu cueillir ces fleurs pour décorer la table de mon maître. Sans toi, tel que tu es, il n'aurait pas ces beautés pour agrémenter sa maison. La morale, chacun de nous avons nos propres défauts. Nous sommes tous fêlés. Ce sont nos fêlures et nos défauts qui rendent nos vies intéressantes et valant la peine d'être vécues. Il suffit d'apprécier chaque personne pour ce qu'elle est et de regarder le bon côté de chacun. Il y a beaucoup de bon en chacun de nous.
Il est l'heure pour nous de rendre l'antenne à vous, Cognac G, à vous les studios et à nous les petites anglaises et les petits anglais majeurs et consentants à consommer avec modération. Nous remercions notre invitée Jacqueline Fillet de l'association Évre Nature Environnement qui nous a inondé de son savoir jusqu'à plus soif. Nous remercions également l'équipe d'Ozone Libre, une équipe haute en couleur et en un mot avec JC, le garde des sceaux d'eau, Damien, le porteur d'eau et Timothée, le petit baigneur. En attendant, retrouvez-nous en podcast sur la page d'Ozone Libre du site principactif.net.